Voilà, bonsoir. Nous allons poursuivre notre aventure dans l'Écriture sainte en lui posant aujourd'hui une question particulière: comment devenir père? La simple paternité biologique est évidemment importante, mais ne coïncide pas nécessairement avec comment est-ce qu'on est engendré à la paternité. Et donc cette question de l'engendrement à la paternité et à la maternité, mais je vais être plutôt sur l'axe de la paternité, cet engendrement à la paternité, je vais le poser à une des plus grandes histoires de tous les temps, un joyau de la littérature universelle et aussi de l'Écriture sainte, à savoir la grande saga d'Abraham, que l'on croit bien connaître, puisque l'on a entendu depuis, pour la plupart d'entre nous, depuis notre enfance. Mais le texte, lorsque on lui pose certaines questions précises, est souvent infiniment plus riche que ce qu'on a pu y... toujours infiniment plus riche que ce qu'on a pu y découvrir. Alors j'ai mis ici le plan au tableau. Donc, l'aventure de la paternité, car la paternité... Ah, merci. La paternité est une grande aventure. Avec... trois grandes parties, je suis malheureusement devant, mais la première partie, Abraham comme fils, je n'ai pas fait de faute d'orthographe, c'est comme ça qu'il faut l'écrire, Abraham comme fils, avec deux sous-parties, le système familial, et de 0 à 75 ans, et puis Abraham, père en devenir, trois parties, et enfin Abraham, père d'Isaac. Découvrir ce que c'est que devenir père, paradoxalement, il faut commencer par découvrir ce que c'est que devenir fils. Un bon père, c'est d'abord un bon fils. Abraham vient d'une famille précise qui a son histoire propre. Celle-ci nous est présentée à la fin du chapitre 11 de la Genèse. Je vais vous lire donc ce chapitre 11. La fin du chapitre 11, versets 26 à 32. Je l'ai ici noté dans une langue un peu très proche de l'hébreu, donc ce n'est pas du tout un beau français, mais ça rend plus immédiatement présent le texte. Et Térak vécut 70 ans et il fait enfanter Abraham, Nakhor et Haran. Et ceux-ci sont les engendrements de Térak. Térak fit enfanter Abraham, Nakhor et Haran. Je ne suis pas trompé, on le dit deux fois. Mais Haran fit enfanter Lot, et Haran mourut contre la face de Térak, son père, dans la terre de son enfantement, en Ur des Chaldéens. Et Abraham prit et Nakhor pour eux des femmes, nom de la femme d'Abraham Sarai, et nom de la femme de Nakhor Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Ishak. Vous êtes un peu perdu, c'est normal, mais le texte s'amuse à nous embrouiller un peu. Et Sarai fut stérile, il n'y a pas pour elle d'enfant. Et Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent avec eux de Ur des Chaldéens pour aller vers la terre de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils restèrent là. Et les jours de Térak furent 250 ans, et Térak mourut à Charan. Voilà l'histoire de la famille d'Abraham, du père d'Abraham, Térak. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je voudrais remarquer certaines choses. Tout d'abord, dans ces 7 versets, le nom de Térak vient 7 fois. C'est un chiffre immense, hein, c'est de versets 26 à 32, donc dans 6 versets, le nom de Térak vient 7 fois. Il apparaît comme la figure absolument centrale qui encadre, qui enserre les différents engendrements. Il est au début et à la fin des engendrements. Chacun, chacune, est posé en référence à lui et ne semble exister que comme un élément du système dont il est le pivot. Donc ça, c'est une première impression. Il y a une sorte d'omniprésence de Térak. Cette première impression est confirmée par d'autres détails dans le texte. Un premier détail, c'est le nom même d'Abraham. Pas Abraham, mais Abraham. Il donne à son fils le nom d'Abraham. Et qu'est-ce que ça signifie, Abraham? En hébreu, ça veut dire « père élevé ». Ou on pourrait dire « celui qui me fait le faire valoir du père », »,« le miroir du père », »,« celui dans lequel le père se contemple ». Vous sentez qu'elle a déjà un petit problème, d'accord? De donner à son aîné le nom de « faire valoir hein ». Nakhor, deuxième fils, quant à lui, porte le nom de son grand-père paternel. Alors vous allez me dire, c'est magnifique. Oui, mais c'est intéressant que c'est un fait unique dans le livre de la Genèse. D'habitude, on ne fait jamais ça. Térak, après s'être glorifié lui-même à travers son aîné, désire-t-il glorifier son propre père aux dépens de son fils? Ou plus radicalement encore, ne veut-il pas inconsciemment se poser en père de son père? Nakhor, mon père, est aussi d'une certaine façon mon fils. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être que vous avez donné à vos propres enfants le nom du grand-père, et c'est très bien. Mais dans la signification ici, c'est un des éléments du texte, hein, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une façon de mettre la main pour Abraham, pour Térak, sur son propre père, hein, en le posant comme son fils. Vous voyez ce que je veux dire? Haran, le troisième fils, quant à lui, ne survit pas à sa paternité. Je recite le verset en hébreu, traduit littéralement. Térak fit enfanter Abraham, Nakhor et Haran, mais Haran fit enfanter Lot, et Haran mourut contre la face de Térak, son père, dans la terre de son enfantement, en Ur des Chaldéens. Ça peut paraître quand même assez bizarre, de mourir contre la face de son père. Pourquoi meurt-il contre la face de son père? Est-ce qu'on pourrait dire que Haran ne parvient pas à être en même temps fils de Térak et père d'un garçon? Est-ce qu'il n'y a pas chez Térak une mainmise sur les engendrements de ses propres enfants? Bref, lorsque l'on lit entre les lignes, comme dans nos histoires qui sont toujours un peu compliquées, Térak ne vit-il pas dans une logique de toute puissance qui s'auto-exalte, Abraham, qui tente de dominer sa propre origine, Nakhor, nom de son propre père, et sa descendance, mort de Haran, ce qui met Lot sous la coupe de son père Térak. Dans un redoutable égocentrisme, ne considère-t-il pas ses fils exclusivement comme des prolongements de lui-même? Bien sûr, le texte n'est pas aussi violent que je le suis maintenant. Il procède par suggestion. Il procède par demi-teinte, plutôt que par des affirmations claires et distinctes. Il sème, ça et là, quelques indices qui peuvent être compris dans plusieurs directions. Comme je disais, le fait de donner le nom de son propre père à son fils n'implique pas nécessairement une volonté de contrôle sur la source de sa vie. Mais le problème, c'est que quand il y a un faisceau d'éléments convergents, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. D'autres détails encore sont cachés et viennent confirmer les traits d'un père extrêmement dominateur. D'abord, l'emploi massif des possessifs. Son, c'est, ça, c'est, sous, ça, tout le temps par rapport. Alors que ce n'est pas nécessaire dans le texte. Ensuite, Sarai, fille de Térak, à Sarai qu'il donne à Abraham, hein, donc la femme d'Abraham, c'est en fait une de ses filles. Sarai est une demi-sœur d'Abraham. On l'apprendra bien plus tard. Nakhor sera bientôt conduit à épouser Milka, la fille de son défunt frère Haran. Bref, à l'image de bien des pères et mères d'alors, et il faut le dire aussi d'aujourd'hui, Térak se révèle comme quelqu'un voulant maîtriser la vie, voilà, ça c'est le point, voulant maîtriser la vie par le haut, lien à son ascendance, par le bas, lien à sa descendance, et par les côtés, lien aux alliances de ses enfants. Il entend tout régenter et tout posséder. souvient d'une préparer des gens au mariage et le père menaçait de déshériter son fils si il lui donnait pas le tel prénom à son enfant. Impressionnant. Donc je veux dire, ces histoires-là, ne croyons pas qu'elles sont reléguées. Là tout à l'heure, je suis avec un cousin qui me dit, oh mais tu sais, la Bible est tellement contextualisée, ça fait plus de 3500 ans qu'elle existe. Comment est-ce qu'on est dans un contexte tout à fait différent? Elle n'a plus rien à nous apprendre. Bon, je n'ai pas vu ce soir, mais un des enjeux justement, c'est de répondre à cette question. Comment ce texte nous parle aujourd'hui et nous concerne nos propres familles? Avec l'art consommé du récit biblique, de parfois exagérer les choses pour nous faire réagir. Encore que parfois, la réalité est encore plus forte que ce qui est écrit. Donc il entend tout régenter, tout posséder. Consciemment ou non, il est essentiellement tourné vers lui-même et vers son autoréalisation. Je parle donc de Térakh. Résultat, son dernier-né décède et la femme de son aîné est stérile. L'ombre de la mort plane sur la vie. Voulant dominer la vie, il arrive au résultat contraire. La vie semble ne pas pouvoir se transmettre. On comprend. Il vit au début à Ur. Nous ne sommes pas habitués à ces lieux, mais ce lieu, dans la Bible, est un lieu de stérilité et de confusion, qui n'est pas sans rappeler Babel. Ur signifie en effet feu ou fournaise, figure par excellence de la fusion dans l'indistinct. C'est sans doute le problème majeur de la famille de Térakh, c'est un problème de confusion et non de distinction. C'est une ville qui est située au sud-est de Babylone. Puis il s'établit à Charan, K-H-A-R-A-N, A-E-A-N. Haran, tiens, c'est le nom d'une ville qui est proche de son fils décédé, Haran. Ne s'inscrit-il pas ainsi dans le deuil de son fils dernier-né et tous les siens avec lui? N'est-ce pas là encore une manière détournée de garder pour lui son fils mort, de ne pas le lâcher, de vivre dans l'attachement à son fantôme? Voilà, donc, il y a encore bien d'autres éléments dans le texte, mais ça montre que ça ne devait pas être facile d'être fils ou fille de Térakh. D'accord ? Et encore moins, sans doute, épouse. Alors, de 0 à 75 ans, je suis ici au petit point 2, voilà le contexte dans lequel Abraham a passé son enfance, son adolescence, son âge adulte et la première période de son âge mûr. Rien ne nous est raconté à propos de la manière dont il a évolué. On parle de blanc du discours. Les exégètes parlent de blanc du discours. Ce qui nous autorise, du moins à titre d'hypothèse, à imaginer un homme ayant vécu sous le pouvoir de son père. Vraisemblablement, Abraham n'a guère été encouragé à agir par lui-même, à explorer de nouveaux horizons, à essayer une nouvelle chose, à risquer l'aventure, à prendre des décisions par lui-même, à s'engager dans l'inconnu. A-t-il pu développer une intériorité personnelle ou a-t-il jusqu'à ce jour été contraint de subordonner continuellement ses désirs, ses opinions, ses émotions et ses besoins à ceux de son père? A-t-il pu acquérir une certaine autonomie ou est-il complètement envahi par le contrôle paternel? S'éprouve-t-il aujourd'hui comme inconsistant, impuissant, fragile, peureux, attentif à ne pas déplaire? Ou au contraire, la révolte et la volonté d'auto-affirmation grondent-elles dans une soumission qui ne serait que de façade? Nous avons les deux attitudes possibles. Et on peut aussi penser les deux attitudes en même temps. D'un côté, une inconsistance, un sentiment « je suis nul », et d'un autre côté, une révolte qu'il ose à peine s'affirmer à lui-même. Rêve-t-il en secret d'indépendance, comme sans doute le fils aîné de la parabole de Saint-Luc? J'ai essayé de... Tout d'un coup, ça m'est sauté en travaillant le texte, que je me dis, tiens, mais le fils aîné qui reste sagement là, à la maison, là, dans la parabole des deux fils chez Saint-Luc. Hein, mais, et puis, peut-être qu'Abraham avait les mêmes sentiments que ce fils aîné. Ou va-t-il jusqu'à s'interdire cette perspective qu'il percevrait comme une insoutenable trahison? voue-t-il à son père un culte d'admiration et de crainte, ou à l'inverse, une rancune tenace et une colère rentrée qu'il pourrait un jour retourner contre autrui ou même contre lui-même. Une colère ou une haine terrible contre quelqu'un, soit on arrive à la sortir, soit on risque de parfois de la tourner contre soi-même, parce qu'on n'ose pas la sortir. Ou, en même temps, est-ce qu'il n'a pas tous ces sentiments, ne s'entrechoquent-ils pas à la fois en lui, dans un chaos d'impressions changeantes? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Oui, entre parenthèses, les quatre prochains cours, vous les retrouvez, c'est pas pour vendre le livre, mais vous les retrouverez tous dans ce livre développé de façon très précise avec toutes les références possibles et imaginables. Vous savez que je raconte des histoires pour enfants, et ça, ce sont des histoires pour adultes, en fait. Vous voyez, où je raconte l'histoire d'Abraham, sa paternité, l'histoire de la fraternité, que nous verrons les deux prochains cours, et puis l'histoire aussi de l'enfance de Moïse, un enfant qui évolue à l'intérieur de trois familles. Voilà. La mainmise d'un parent sur un enfant s'exerce en général de manière assez insidieuse et manipulatrice. Exécute ce que je te dis, j'ai tant fait de sacrifices pour toi, je suis préoccupé de ton bien, si tu ne te plies pas à mes directives, si tu me contraries, tu me feras beaucoup de peine, ainsi qu'à tout le clan et à toi-même. Je suis déjà tellement affligé par mon manque de descendance, tu as trait ma mort, tu n'appartiendrais plus à la famille, montre-toi digne de nous. J'imaginais des messages inconscients, ou parfois clairement dit, que Térak a dû faire passer à ses enfants et à Abraham en particulier. Le Midrash Rabba décrit les dispositions intérieures d'Abraham au moment de son grand départ dans cette ligne. Notre père Abraham, écrit le Midrash Rabba, avait peur. Je vais partir, disait-il, et par ma faute, on profanera le nom du ciel en colportant. Il a abandonné son père à l'heure de sa vieillesse et s'en est allé. Voilà. Alors, passons maintenant au point B. Abraham, père en devenir. Je continue la lecture au chapitre 12. Le Seigneur, toujours dans un hébreu assez littéral, le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ta terre et de ton enfantement et de la maison de ton père vers la terre que je te ferai voir, pour que je te fasse en grande nation, et que je te bénisse, et que je rende grand ton nom, et que tu sois bénédiction. » Nous connaissons cette phrase, hein, cet ordre. Alors, moi, j'ai entendu cet ordre avec en arrière-fond quand l'ange vient à Nazareth, hein, auprès de Marie, hein, avec une délicatesse, ne crains pas Marie, etc. Là, va-t'en, une sorte de rudesse. Dans ce commandement initial, pas de salutation, pas d'approche en douceur, comme l'ange à Nazareth, mais un ordre vertical et tranchant, va-t'en. En agissant ainsi, Dieu opère une douloureuse séparation, féconde comme dans le premier récit de la création. Il invite vigoureusement Abraham à quitter le cercle familial replié sur lui-même, à Charan, dans une ville donc proche du nom du frère défunt. Il tranche dans le vif avec le glaive de sa parole. Donc, si vous voulez, c'est très, dans le premier chapitre de la Genèse, hein, quand Dieu sépare le ciel, la terre, une façon de créer pour Dieu, c'est de séparer, c'est de distinguer, pour permettre l'harmonie. Et quand Dieu veut manifester qu'il y a une logique de mort qui est à l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est le déluge. Tout est confondu dans l'eau. Voyez, la confusion est toujours dans la Bible une façon d'exprimer la mort, le conflit, le chaos. Par contre, la séparation, la distinction, c'est ce qui permet l'harmonie. Et là, la famille de Térak telle que je vous l'ai présentée, je me suis basé là-dessus sur les études d'un exégète belge de Luciel, André Wenin, qui a étudié ce texte. Donc, nous passons d'une paternité qui est très fusionnelle, qui est très confusionnel en quelque sorte, a tout d'un coup un ordre tranchant, une séparation, qui n'a pas dû se faire sans douleur. Dieu vient donc au secours, en quelque sorte, de Térakh dans sa paternité qui est fusionnelle. Pour exercer, alors ça c'est, si vous retenez cela, c'est l'essentiel, c'est pour exercer une paternité d'alliance. La paternité n'est pas une question de fusion, c'est une question d'alliance. Bon, bien sûr, différente aux différents âges. Nous allons voir comment. Où la parole est centrale. Les études de psychologie sur le lien entre le père et la parole. La mère aussi, bien sûr. Mais le père. Il ouvre à Abraham un avenir. C'est-à-dire une terre, une descendance et un nom qui lui sera propre. Ton nom à toi. En d'autres termes, il engendre Abraham à lui-même, à sa propre identité, à sa spécificité et à sa différence, à son nom, à son autonomie, à sa capacité personnelle de recevoir et de transmettre la vie. Alors, quel est le résultat de cela? Au verset 2, « Et Abraham alla comme le Seigneur lui avait parlé. » Encore une fois, à la différence de Marie à Nazareth, aucune délibération intérieure ne nous est rapportée. Aucune discussion avec son père. Et Abraham alla. À un certain moment, il y a le moment de la discussion, il y a le moment où on a l'impression qu'on assiste presque à un arrachement grâce à une parole. Trois mots abrupts, incisifs, Abraham et Abraham alla, bouleversants, qui opèrent un virage aussi soudain qu'inattendu. Abraham saisit la chance de sa vie au vol. Il quitte Charan et l'ombre de son frère cadet décédé. Le voici qui risque ses pas dans l'inconnu. Il met de la distance entre son père et lui. Il traverse de grands espaces et des frontières. Il se met à respirer par lui-même un air différent. Sans la parole d'un autre, un tel départ eût été impossible. D'accord ? Alors, je ne suis pas là en train de dire, quand vous rentrez chez vous, qu'il faut couper tous les ponts avec votre père. Hein. Ça, c'est pas du tout cela. D'accord ? Je raconte simplement l'histoire telle qu'elle nous est présentée dans l'Écriture sainte. Et en fait, la meilleure façon d'honorer ses parents, c'est de les quitter. Ça ne veut pas dire les abandonner. Quitter ne veut pas dire abandonner. Mais de les quitter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, avons-nous vu à la cour précédente, s'attachera à sa femme, tous deux ne feront qu'une seule chair. Donc, Dieu permet à Abraham de réaliser sa vocation, de fonder une nouvelle communauté où la vie pourra jaillir. Tant qu'il est sous emprise, la vie n'arrive pas à jaillir. De 75 à 99 ans, alors, je vais aller vite, parce que ce sont les périodes les mieux connues et qui sont bien développées dans le livre. En fait, dans un premier temps, Abraham va reproduire les comportements dominateurs de son père. C'est tellement humain. Je vous en ai un peu parlé la fois passée. Quelque temps après son départ, il utilise en Égypte sa très jolie femme comme moyen de survie. Il la donne à Pharaon en échange de la vie sauve et d'avoir des biens matériels. Voilà, et puis, donc il a beau avoir mis des kilomètres et des kilomètres de distance avec son clan, il reproduit dans sa propre famille les mêmes automatismes dont il a hérité de ses parents, de son père. Le chemin à parcourir s'annonce long, extrêmement long, ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Abraham doit aussi apprendre à posséder la terre, le pouvoir d'engendrement et son nom d'une autre manière que Térakh. Donc vous avez toute la pédagogie divine de ce point de vue-là. Pour entrer pleinement dans la bénédiction de la vie, il doit renoncer à ce qui l'empoisonne et empêche de se propager, à commencer par la domination. Vous en Genèse 3, 16, c'est une des caractéristiques du mal qui est entré dans le monde, c'est la convoitise et la domination. La paternité est telle qu'on la voit chez Térakh, mais aussi dans ses débuts chez Abraham, dans ses essais chez Abraham, elle est empoisonnée par la domination et la convoitise. Comme toutes nos paternités, hein, et toutes nos maternités. Peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais voilà, ça fait partie du jeu, d'accord ? De facto. à cet effet, pour l'éduquer, c'est ça qui est assez intéressant, Dieu veille à ce que ses désirs ne soient pas immédiatement satisfaits. Car si c'était le cas, cet homme retomberait quasi inévitablement dans les travers de Térakh. Donc, c'est absolument fascinant. La manière dont Dieu utilise pour bénir Abraham, c'est en fait de le mettre dans une situation objective de malédiction. Tu auras une terre, il n'a pas de terre. Il doit faire boire ses chameaux et ses troupeaux dans les puits d'autres peuples, ce qui est toujours dangereux, hein. Il n'a toujours pas de descendance. Son nom n'arrive pas à se faire un nom. Abraham est béni à travers, paradoxalement, le don d'un manque. De manques extrêmement... qui ne sont pas secondaires, mais qui sont les manques les plus profonds pour un homme, à savoir la question de la descendance et la question de la terre. Et on va voir aussi qu'avec son épouse, c'est pas simple non plus. Il y a une psychiatre, Diane Drory, qui a écrit un livre que je vous recommande, très simple à lire. Au secours, je manque de manque. Aimer n'est pas tout offrir. Elle ne parle absolument pas d'Abraham. Mais j'ai retrouvé chez cette psychiatre qui n'est pas nécessairement chrétienne, au niveau de l'éducation, elle dit ce qu'il y a de terrible chez les enfants, c'est de tout leur donner tout de suite. C'est absolument anti-éducatif. Et donc, elle dit ce que les générations manquent aujourd'hui, c'est le manque, c'est du manque. Il faut pouvoir leur donner du manque et les accompagner dans ce manque. Je la cite, « Contrairement à ce que pensent certains, l'adulte n'a pas pour rôle d'offrir à l'enfant, au nom de son épanouissement, tout ce qu'il désire. Éduquer engage à confronter l'enfant au manque. » Pour mettre éduquer pour Dieu, engage Dieu à confronter Abraham au manque. En l'initiant à l'attente, au risque, c'est toujours Drory qui parle, en lui apprenant à perdre. Elle cite Sénèque. Habitue chaque jour ton esprit à perdre ce que tu possèdes, tes biens, ta santé, tes êtres chers. Dans la même veine, le If de Kipling est un ode à l'importance du manque dont l'acceptation est source de notre force intérieure. Rien de neuf sous le soleil. L'identité, toujours Drory, pour se forger, ne peut faire l'impasse de l'opposition, de la confrontation, de la responsabilisation, de l'autonomie, en un mot, de la différence. Or, pour accepter l'autre dans sa différence, l'adulte doit aussi s'accepter manquant, ne pouvant être tout ni avoir tout. Fin de citation. Donc, si vous voulez, il doit sortir d'une sorte de toute puissance imaginaire que lui procurait une jouissance immédiate de ses moindres caprices et découvrir sa vraie place au sein de l'existence en relation avec les autres. Confronté au manque, Abraham naît peu à peu au monde. Je cite là un autre psychologue, Philippe Meyrieux et Jacques Lisenborg. Naître au monde, c'est d'abord sortir de la toute-puissance, sortir de la posture de celui qui veut commander à tous et à tout. C'est accepter que les autres puissent vivre en dehors du désir que j'ai d'eux. C'est accepter de ne plus télécommander les choses et les êtres, mais d'engager avec eux une aventure inédite qui permet de se construire comme sujet. Fin de citation. Bienheureuse privation qui donne à Abraham la possibilité de se construire comme sujet, ou en langage biblique, d'aller vers lui-même et de devenir partenaire d'alliance. Bienheureuse promesse, la façon dont Dieu donne dans la Bible, c'est toujours en promettant. Comme les parents le font aussi, comme vous faites aussi. Une façon pour Dieu de donner, c'est de promettre. Et promettre, c'est donc différer le don de la réalisation du don. Pour permettre à la personne, à l'enfant, à Abraham, de se disposer à recevoir. Et donc échapper à une logique de la convoitise du tout tout de suite. Alors, nous sommes donc au point de 75 à 99 ans. Il y a aussi l'histoire dont j'ai parlé la fois passée, donc je vais aller un peu plus rapidement maintenant, mais encore une fois, vous retrouvez tout de façon très développée dans le livre. À un certain moment, Abraham part a l'impression qu'il va mourir sans enfant, et il dit un serviteur héritera de moi. Et donc c'est sa femme Sarai qui vient et qui lui présente sa propre servante Agar et qui lui dit: voilà, je te donne ma servante, va, et elle va m'enfanter à moi un enfant. Donc c'est une façon, encore une fois, de rentrer dans une logique de possession de son pouvoir d'engendrement. Et non pas d'accueil. Et donc c'est une paternité là de domination totale. Puisque l'engendrement est fait en dehors de toute relation d'alliance. Abraham utilise tout le monde s'utilise l'un l'autre, y compris Dieu. Enfin, on utilise aussi Dieu, enfin Dieu mis de côté. Il n'y a pas de relation d'alliance entre Agar et Abraham, entre Agar et Sarai, et dans ce cas-ci, entre Sarai et Abraham, son mari. On est dans une dynamique utilitariste. Sarai, qui est une femme, je vais pas suivre cette ligne ici, encore une fois, elle est ailleurs, mais qui est une femme en profonde souffrance dans toute une série de domaines, et qui a aussi toute une histoire. C'est intéressant de suivre l'histoire d'Abraham, de Sarai aussi. Voilà, donc pendant 25 années, Dieu accompagne Abraham dans sa marche, lui fait éprouver le manque, mais aussi lui permet de traverser les épreuves liées à ce manque et aux angoisses qui sont attachées. C'est assez impressionnant de voir le nombre de fois que Dieu s'adresse à Abraham, le nombre de fois où il lui parle et où il fait alliance avec lui. C'est un des secrets, me semble-t-il, de la parenté, que ce soit la maternité ou la paternité. C'est non pas de préserver l'enfant de toute épreuve, de toute difficulté, mais d'être présent pour lui permettre d'affronter ces difficultés et d'être ce que Dominique Streuf appelle un passeur, une passeuse d'angoisse. Une belle description de la parenté, la paternité et la maternité ne se réduit pas à être passeur ou passeuse d'angoisse, évidemment. Mais aussi la paternité spirituelle. Quand on accompagne quelqu'un sur le plan spirituel et qu'il traverse des moments difficiles, l'objectif, c'est pas de le préserver, de la préserver de tous ces moments difficiles, mais d'être à ses côtés pour lui permettre de traverser. Une très belle histoire comme ça d'un philosophe allemand qui était disciple de Heidegger, dont le nom m'échappe à l'instant, mais peu importe, ça va me revenir, qui a écrit La métaphysique de l'amour, peu importe, La métaphysique de l'enfance. Qui dit ceci: en fait, j'avais très très peur quand j'étais tout petit enfant de la mort. Et un jour, maman est venue m'annoncer que son propre père, donc mon grand-père que j'aimais énormément, était décédé. Et elle me l'a annoncé avec un visage complètement bouleversé, avec des larmes, mais avec tellement d'amour pour moi que à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu peur de la mort. Donc, ça illustre un petit peu ce que j'essaye de dire et de discerner dans la pédagogie divine par rapport à Abraham. Donc, Abraham ne va pas être préservé des épreuves qu'il a à traverser, au contraire. Il va être même les épreuves sont un don. C'est un peu étonnant de pouvoir dire ça, il faut le dire avec prudence. Elles sont un don dans la mesure où Dieu accompagne et permet à Abraham et Sarai de traverser ces épreuves de façon victorieuse. En étant un passeur d'angoisse, d'accord ? Au sens où le docteur Streuk en parle. Passons au petit point 3. Abraham a maintenant presque 100 ans. 14 années après l'épisode de la mer porteuse, hein, dont je viens de parler, Dieu offre à Abraham un nom nouveau en transformant l'ancien. Au chapitre 17, en effet, Abraham qui signifie père élevé, est appelé Abraham. Donc il y a un H-A en plus. Son nom est vraiment allongé. Et Abraham signifie en hébreu père d'une multitude. Il passe. C'est pour ça qu'on pourrait dire que la paternité, c'est de passer du nom de père élevé, hein, père, faire valoir du père, à père d'une multitude. Grâce à Dieu. Et Abraham avait 99 ans, et le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Moi, voici mon engagement, Brit, c'est l'alliance, l'engagement au sens fort, avec toi, et tu deviendras père d'une foule de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, et ton nom sera Abraham. Car père, Ab, hein, Abba, Ab, d'une foule, Hamon, de nations, je t'ai donné. Je te ferai fructifier en beaucoup, beaucoup, et je te donnerai en nation, et des rois de toi sortiront. Et je j'établirai mon engagement entre toi, entre moi et toi. » 17, chapitre 17, versets 1 à 7. Bien sûr, il n'est pas encore un père accompli, loin de là. Son rapport à la vie et à l'alliance reste, par beaucoup de côtés, encore ambivalent. Ça, c'est aussi extrêmement consolant de voir que Dieu n'attend pas que nous soyons des hommes parfaits pour nous confier le don de la paternité. Sinon, on ne serait jamais père. Parce que vous allez voir, il est loin d'être parfait encore, Abraham. Et ça sera jusqu'à son dernier souffle. Mais malgré ses égarements, Abraham marche dans la bonne direction. Son nom nouveau en est à la fois le témoin et l'appel. Ce nom lui est donné par Dieu en même temps que le signe de la circoncision. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le signe de la circoncision? Il y a un livre qui vient d'être publié à ce sujet-là, chez Lécius, sur la circoncision. En deux mots, Dieu choisit l'organe chargé de transmettre la vie pour signifier son alliance. C'est quand même fort, hein? Et ce, en l'extrémité même de cet organe d'où jaillit la semence de vie, au lieu le plus intime de contact avec l'autre. Cette marque dans la chair n'est donc pas neutre ou le fruit d'un hasard. Il y a un symbolisme extrêmement puissant. Elle est là pour rappeler constamment à l'homme, n'engendre pas refermé sur toi-même, mais dans l'ouverture à l'autre, avec un petit A et un grand A. Accepte une certaine démaîtrise par rapport à ton propre pouvoir sur la vie. Ne t'imagine pas, ne te rêve pas en autosuffisant, une manière de penser toute la bioéthique de ce point de vue-là, mais je ne risque pas maintenant, hein, mais je veux dire, c'est très profondément inspirant pour la bioéthique, ce genre de choses-là. Entre dans la manière d'engendrer d'Abraham, c'est-à-dire une manière d'engendrer qui est un engendrement dans l'Alliance, et quitte celle de Terak. Ainsi, tu deviendras toi aussi père dans une grande communion avec ton épouse et avec moi. Ainsi, toi aussi, tu seras béni et source de bénédiction. Pouvait-on imaginer signe plus parlant pour le peuple élu, un signe à transmettre de génération en génération? Donc, le signe de la circoncision, quand vous y réfléchissez, c'est extrêmement puissant. C'est un rappel permanent que le pouvoir d'engendrement est appelé à être vécu dans une dynamique d'alliance et de communion. C'est le signe même de l'alliance et de la communion avec Dieu et donc du peuple aussi. Le peuple qui se constitue comme peuple, pour la forme de la famille. Juste après le don du nom nouveau et de ce pacte de la circoncision, Dieu enjoint Abraham de plus appeler sa femme Sarai. Sarai, ça veut dire « ma Sarah ». Mais Sarah tout court. Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras pas son nom Sarai, car Sarah est son nom. Donc il s'agit ici du même nom en hébreu, mais sans la marque du possessif. Abraham n'est-il pas ici invité à découvrir l'identité profonde de la femme qui vit à ses côtés et existe comme quelqu'un d'autre, pas simplement comme une de ses possessions, ma Sarah. Ne reçoit-il pas la révélation et la tâche de ne plus regarder cette femme comme donc sa possession, tout en continuant à l'appeler Sarah? il y a sans doute plusieurs interprétations, elle s'inscrit profondément dans l'aventure d'Abraham. Ainsi, Dieu ajuste-t-il l'un à l'autre, Abraham et Sarah. Je n'ai pas développé cette ligne-là, mais elle est présente. Il ajuste Abraham et Sarah pour leur permettre de recevoir la bénédiction. « Je la bénirai, 17, 16, chapitre 17, verset 16, je bénirai donc Sarah, je la bénirai, et même j'ai donné d'elle pour toi un fils, et je la bénirai, et elle deviendra des peuples, des rois de peuples viendront d'elle. » On n'est jamais béni tout seul. Tout est enfin prêt pour la grande nouvelle du chêne de Mamre. Ça va? On va très très vite, hein? Mais c'est absolument fascinant, je trouve, cette aventure, cet engendrement à l'altérité, finalement. À l'altérité reçue et transmise. C'est le point C. Abraham, père d'Isaac. Premier point, l'étranger et le fils. C'est une expression de Paul Beauchamp, grand exégète jésuite, qui a commenté aussi ce texte. Il est midi, vous connaissez ce texte, hein, de l'épisode du chêne de Mamré. Il est midi, donc l'heure de la pleine lumière. Abraham, je cite, est assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. 18.1. Sa femme et lui-même, je cite, 18.11, sont vieux, avancé en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce que les femmes ont, biologiquement plus engendré. Soudain, Abraham lève les yeux, et voici que le Seigneur se tient devant lui. Le Seigneur se tient devant lui. À moins que ce soit trois hommes, ou peut-être trois anges. Le texte hésite, et nous embrouille continuellement les pistes. On passe du singulier au pluriel, et puis on... Du Seigneur, et puis trois hommes, et puis. Voilà. Je cite. Le Seigneur lui apparut, 18.1. Abraham vit trois hommes debout près de lui, 18.2. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre, 18.3, et dit : Mon Seigneur, veuille t'arrêter, 18.4. Bon. Alors, l'exégèse historique et critique qui est fort intéressante va tâcher d'expliquer cette alternance de singulier et de pluriel par différentes couches rédactionnelles, etc. Qui datent, bon. C'est vrai. Mais n'empêche que le rédacteur final a mis tout ça ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Parce que finalement, ce qui est normatif, c'est le texte tel qu'on le reçoit par le rédacteur final. Et ce qui est reconnu comme inspiré, c'est le texte, non pas dans ses différentes couches, hein, mais le texte tel qu'il est livré dans sa forme finale, par le rédacteur final. Donc, le rédacteur final n'a pas uniformisé ces différentes interprétations. Il les a agencées comme s'il voulait volontairement embrouiller Abraham et nous-mêmes. Pourquoi cet oral mystère qui lie sans lier le divin singulier et l'humain pluriel dans une sorte de jeu de chaises musicales? Qui Abraham s'empresse-t-il d'accueillir? Qui parle? Cet hôte ou ses hôtes sont étrangers à la région. Abraham les rencontre pour la première fois et leur offre l'hospitalité. Et après avoir pris le repas ensemble, ceux-ci lui annoncent la magnifique nouvelle: « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » En ouvrant ainsi sa tente à un ou trois étrangers, à un ou trois autres, Abraham apprend qu'il va enfin avoir un fils. Il y a une association fulgurante entre étranger et fils. La première annonciation de toute la Bible est rendue possible par l'accueil de l'autre, du nouveau, du différent. Si tu es capable d'une réelle hospitalité, alors tu es en mesure de recevoir un enfant. Certes, ce dernier est la chair de ta chair, il jaillit de ta vie en alliance intime avec celle de ta femme, et pourtant il est différent. Certes, il vient de toi et de Sarah, et pourtant, il vient d'ailleurs, et tu es invité à le recevoir comme tel. Un jour, j'étais dans un avion à côté d'une gynécologue, qui était une petite femme d'une soixantaine d'années, toute petite là, Et alors elle me racontait une de ces, qu'un jour, lors d'un accouchement, il y a le mari était mécanicien, elle dépose le bébé dans les bras du mari, et le mari ne sait pas quoi faire, et il dit comme ça, je ne sais pas qui a fait ça, mais chapeau, chapeau. Hein. C'était lui le père, vous voyez. L'expérience de l'enfant est vraiment autre que simplement le fruit de l'amour. Et quelque chose de plus. Puis alors, il m'a dit aussi, elle était vraiment petite, cette femme, hein, vraiment. Et alors, elle me raconte, elle me décrit ses muscles et tout, elle le regardait comme ça, et puis de lui haut, elle dit, « Oh docteur, devant ça, on se sent vraiment tout petit. Hein. » cette alliance entre le tout petit bébé, le grand costaud, et puis la petite docteur, là, c'était magnifique. Ouais. Donc, l'expérience que l'enfant est autre, et n'est pas simplement la prolongation du désir. Terak n'avait pas compris cette loi fondamentale de la génération. Il s'est comporté comme si son projet parental, entre guillemets, était constitutif de ses enfants et a tenté de maîtriser leur destin. Il n'a pas pu les accueillir pour eux-mêmes et les élever en conséquence. Abraham, lui, à l'aube de ses 100 ans. Donc, voilà, si vous n'avez pas encore 100 ans, vous inquiétez pas, ça va venir, d'accord ? C'est ça qui est extraordinaire, hein, avec cette pensée que ça nous met à l'air. Finalement, je vous ai dit, ça va pas chez nous. Pas si mal quoi. Ce lien entre fécondité et accueil de l'étranger est capital pour celui en qui toutes les familles, toutes les nations de la terre sont appelées à être bénies. S'il avait été capable d'accueillir l'autre comme autre, comment aurait-il pu, si vous voulez, être le lieu à travers lequel toutes nos familles sont bénies ? Parce que nous n'avons pas besoin d'un dominateur. D'être bénis dans une famille de dominateurs. Nous avons besoin d'être bénis dans une famille où l'alliance est la loi fondamentale. Et la bénédiction, d'ailleurs, est ce qui permet l'alliance, ces facteurs d'alliance. Après cette bienheureuse... oui, alors c'est assez intéressant, je fais une petite parenthèse, ça m'est de voir que Abraham fait fonctionner toute sa tente, toute l'économie domestique autour de l'accueil de l'étranger. Il court, il dit à ses serviteurs, allez vite à chercher du gros gras, qu'il a abattez-le, il fait du lait, caillé, etc., les galettes, il se tient face, etc. Donc c'est une économie, certains diraient de communion, si vous voulez. Donc une économie qui est profondément ouverte, à la différence de l'économie de Sodome, qui va venir juste après, qui est une économie qui est basée sur l'exclusion de l'étranger. Je ne suis pas en train de donner un message déguisé sur l'accueil des réfugiés ou pas chez nous. Hein. Chacun, il y a des médiations de réflexion qu'on va faire. Mais fondamentalement, si vous voulez, c'est une économie profondément ouverte sur l'autre, et sur l'étranger. Et alors, c'est aussi intéressant de voir que l'arbre, le repas, Dieu, étranger, ça ne vous rappelle pas un autre repas qui s'était mal terminé ? Genèse 3, hein, où il y avait Adam et Ève qui mangeaient ensemble leurs fruits. Hein. Donc ici, nous sommes dans un repas qui est l'anti-repas de Genèse 3. Si vous voulez. Un jour, quand j'avais été au Bénin, j'avais interrogé sur Genèse 3, justement, et alors j'ai demandé, parlez-moi un peu de ce repas, et alors... l'étudiant, qui était un très bon étudiant, a fait une sorte de terreur. Au début, il dit « Oui, c'est Adam et Ève qui ont mangé le serpent. » Ça aurait résolu beaucoup de questions. Si le serpent avait été tout de suite. Et donc ici, vous voyez, vous avez... c'est un repas de communion, ou un repas où chacun a sa place sous un chêne, qui est un mot aussi... au Seigneur, un des noms archaïques de Dieu. Voilà. Après cette bienheureuse visite, Abraham reconduit ses hôtes vers Sodome. Et puis, vous connaissez l'histoire de Sodome, chapitre 19, versets 4 et 5. les habitants viennent et disent où sont les hommes qui sont venus chez toi, chez Lot donc, cette nuit, amène-les-nous pour que nous en abusions. Qu'on ne s'y trompe pas, le péché de Sodome réside d'abord et avant tout dans le rejet des étrangers, dans sa tentative de prendre possession d'eux, de s'emparer de leur vie, jusqu'à les réduire en objet de consommation et de consommation sexuelle. Mais pas avant tout la question de, comme on a dit souvent, de d'homosexualité. C'est pas d'abord ça qui est visé. Ce qui est visé ici, c'est le refus de l'hospitalité. Et donc, le contraste total avec l'épisode de Mambré. Sodome refuse la visite de l'autre, et de l'autre avec un grand A. Elle est fermée sur elle-même, dans une prétentieuse opulence, peuplée, comme dit le texte de la Genèse 13, de grands scélérats et de pécheurs contre le Seigneur, sécrétant une culture anti-vie. Et donc, il va en subir les conséquences. Vous connaissez les conséquences qu'il y a eu par rapport à Sodome. Alors, malgré cette visite pleine d'espérance à Mambré, malgré toutes ces expériences, malgré ces 25 ans de cheminement, etc., Abraham retombe juste après dans le même mensonge et la même manipulation qu'en Égypte, avec la complicité explicite de son épouse. Séjournant à Gérar, il dit à sa femme, Sarah, c'est ma sœur, et Abimélec, le roi de Gérar, fit enlever Sarah. C'est la même chose. Oui, Abraham n'est pas guéri des coutumes qui étaient d'ailleurs inscrites dans les lois aussi de l'époque. C'était des pratiques aussi qui étaient de l'époque. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu rend toutes les femmes de Abimélec stériles. C'est quand même un signe fort, hein, qu'il y a un problème de transmission de la vie. Et puis Abraham intercède pour Abimélec. Et puis finalement, les femmes d'Abimélec peuvent de nouveau avoir des enfants. Il rentre déjà dans sa vocation d'intercesseur, de bénédiction. En lui, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, même ceux qu'il a offensés lui-même. D'accord ? Alors, dernier petit passage que j'ai intitulé « Rire ». Quelque temps après ce douloureux épisode, Sarah conçoit et enfante un fils en alliance avec son mari et avec le Seigneur. Abraham lui donne le nom d'Isaac et le circoncit le huitième jour, comme Dieu le lui avait ordonné. Isaac signifie « rire » en hébreu. Rire. Imaginez appeler votre fils ou votre fille « rire ». Tout le monde rit grâce au bébé, et ce, dès l'annonce de sa conception imminente. Abraham rit lorsqu'il apprend qu'il va être père, 17-17. Sarah rit sans l'avouer, 18-12. Je n'ai pas ri, 18-15. Si tu as ri, lui rétorque son mari, 18-15 aussi. Et après la naissance de l'enfant, elle déclare, Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront souriront, 21-6. Isaac est donc conçu, porté et mis au monde dans un grand éclat de rire. Alors, en même temps, bon, il faut pouvoir distinguer, il y a plusieurs types de rires. Hein. Il y a des rires qui sont teintés d'une sorte de désespérance qui peu à peu est surmontée, d'ironie, etc. Il y a toute une possibilité de réfléchir à Saint-Augustin, quelques très belles pages là-dessus, sur l'évolution du rire dans la famille. C'est un rire qui au début, c'est un rire un peu jaune, et puis après qui se déploie. Le Seigneur m'a fait rire de joie, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Au début, donc, le rire est sans doute mêlé d'incrédulité, d'une certaine amertume, d'un peu d'ironie, de dépit même, et de défi. Un rire peut être aussi de défi. Puis, au fil des mois, ce rire se purifie, s'amplifie, il prend possession de tout son être, spirituel, psychique et corporel. Ce n'est pas d'abord Sarah qui le provoque, mais c'est le rire lui-même qui se saisit d'elle, soudain, gratuitement, dans une explosion de joie. Alors, permettez-moi de vous partager une toute petite expérience. J'attendais des amis à Zaventem, et alors, il y avait là un enfant qui attendait ses parents, et tout d'un coup, il a vu ses parents qui arrivaient avec leur bagage, et il a commencé à rire, mais avec un cri de... Alors, et tout le monde autour, on a commencé à rigoler tellement que c'était extrêmement émouvant. Et il était tellement heureux qu'il ne bougeait plus. Et sa maman s'attendait à ce qu'il court, mais voilà. Il y a quelque chose de cette expérience-là, si vous voulez, chez une femme et chez un homme qui ont plus de 100 ans de parcours ensemble, hein, c'est assez différent. La vieille femme est complètement dépassée par ce qui lui arrive. Voilà que son histoire, intimement liée à celle de son mari, reçoit un merveilleux dénouement. Toute sa personne, fatiguée par les multiples péripéties de son existence et par les ans, accueille un souffle nouveau et joyeux. Tout son être, sans doute partiellement éparpillé par les épreuves, le rire, en fait, quand il est profond et vient du cœur, nous unifie très profondément. C'est-à-dire, hein, pour ça que le rire d'un bébé est tellement drôle, c'est qu'il est totalement dans son rire, comme il est aussi totalement dans ses pleurs. Hein. Il y a une sorte de... Il y a une unité qui est donnée dans... Et en même temps, un élargissement de l'être. Ce rire la recueille, la libère et l'emporte au-delà d'elle-même. Quand le Seigneur, le psaume 126,2, on peut l'appliquer à Sarah, et à Abraham aussi, mais à Sarah surtout, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve, alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Luc 6,21. Le temps du rire est arrivé. Et enfin, la promesse est accomplie. La joie est de retour dans le monde. Quelle victoire! La paternité et la maternité ont abouti. L'impossible s'est réalisé grâce à Dieu et grâce à la réponse d'Abraham et de Sarah. Avec Isaac, les lecteurs que nous sommes accèdent de nouveau au jardin d'Éden. À chaque naissance, il y a quelque chose d'Isaac. Même si parfois, il y a des naissances qui demandent plus de temps pour que Isaac vienne en nous. Il peut assister au moment de la recréation d'Adam, au cœur d'un monde déchu marqué par la domination et la convoitise. Comment ne pas rire de bonheur? Le nom d'Isaac est donc admirablement choisi. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Et d'ailleurs, Isaac, à la différence de son père, il ne va pas voyager des milliers de kilomètres. Il va être tranquillement rester sur place, il va devenir très très riche, il va avoir une vie, il va avoir aussi ses épreuves. Sa femme va attendre quand même 60 ans avant de pouvoir avoir des enfants lui-même. C'est un moment de bonheur avant l'histoire de Jacob, que nous allons entendre la prochaine fois, dans cette famille assez extraordinaire qu'est la famille d'Abraham et de Sarah. Donc, comme conclusion, que dire, hein? C'est que le livre de la Genèse nous enseigne, en nous mettant très à l'aise, que la paternité est une histoire qui traverse les épreuves et qui peut le traverser victorieusement à condition d'aller toujours dans la direction d'une dynamique d'alliance et non pas d'une dynamique de domination et de fusion. Abraham est loin d'être parfait. Vous savez qu'il avait aussi des concubines, hein, en plus de son épouse légitime. D'ailleurs, ça va créer plein de problèmes de famille après que nous étudierons avec Joseph. Il aura Keturah, et puis il aura, etc., qui va d'ailleurs renvoyer à la mort et tout et tout. Un peu avant de mourir, il va renvoyer ses épouses, etc. Enfin, c'est loin d'être une famille parfaite, mais nous voyons à l'œuvre, et donc il y a évidemment des tas d'éléments qui sont situés historiquement, mais nous voyons à l'œuvre comment Dieu, sans se substituer à la liberté d'Abraham, l'engendre dans le lien avec son épouse et engendre son épouse aussi à une véritable parenté d'alliance. Cela prend du temps et cela se termine par le rire. Je vous remercie.